Chapitre 10. Histoire contée par M. Supple, curé de la paroisse. Pénétration de M. Weston. Son amour pour sa fille et manière dont elle y répond. Le lendemain matin, Tom Jones chassa avec M. Weston, qui, à son retour, l'invita à dîner. Sophie montra ce jour-là plus de gaieté et de vivacité qu'à l'ordinaire. Elle avait certainement dressé ses batteries contre notre héros, quoiqu'elle ne sût pas bien elle-même quel était son projet. Mais si elle eut celui de le charmer, elle y réussit complètement. M. Supple, curé de la paroisse de M. Allworthy, était de la compagnie. C'était un bon et digne homme, qui était surtout remarquable par le silence qu'il gardait à table, quoique sa bouche n'y fût jamais fermée. En un mot, il avait un des meilleurs appétits connus. Cependant, la nappe n'était pas plutôt levée qu'il dédommageait amplement la compagnie de son silence. Car il était d'un caractère jovial, et sa conversation, toujours amusante, n'avait jamais rien d'offensant. À son arrivée, qui eut lieu immédiatement avant que l'on servît le roast beef, il avait donné à entendre qu'il était porteur de quelques nouvelles, et avait déjà commencé à dire qu'il sortait de chez M. Allworthy, lorsque la vue du rôti le rendit muet à l'instant. Il ne se permit plus que de dire son bénédicité et de présenter ses respects au baronnet. C'est ainsi qu'il appelait le roast beef. Aussitôt que le dîner fut fini, Sophie lui rappela qu'il avait des nouvelles à dire, et il commença en ces termes. « Vous devez avoir remarqué, madame, hier à l'office du soir, une jeune femme vêtue d'une de vos robes. Je crois du moins vous l'avoir vue porter. Cependant, un tel vêtement dans nos campagnes est « rara avis in terris, nigroque similima signo ». C'est-à-dire, madame, oiseau rare ici-bas autant qu'un cygne noir. Ce vers est de Juvénal. Mais pour en revenir à mon histoire, je disais que de tels vêtements se voient rarement dans nos campagnes. Peut-être aussi les remarqua-t-on davantage en considérant celle qui les portait, et qui, m'a-t-on dit, est la fille de Black George, votre garde-chasse, à qui j'aurais cru que l'infortune aurait du moins donné assez d'esprit pour ne point habiller sa fille d'une manière aussi extravagante. Elle causa tant de troubles dans l'église que si M. Allworthy n'eût pas imposé silence, le service divin aurait été interrompu. Car je me suis vu au moment de m'arrêter au milieu du premier verset. Après que la prière fut finie et que je fus retourné chez moi, il s'ensuivit dans le cimetière de l'église un combat où, parmi d'autres malheurs, la tête d'un violonneux itinérant fut grièvement blessée. Ce matin, il est venu se plaindre à M. Allworthy, qui a fait venir la fille devant lui. Ce digne homme paraissait penché à arranger l'affaire, quand, hélas, au moment même, je vous en demande pardon, madame, il s'aperçut que cette fille était, comme qui dirait, à la veille d'accoucher. M. Allworthy lui demanda qui était le père de cet enfant, mais elle refusa opiniâtrement de faire aucune réponse, en sorte qu'il était sur le point de l'envoyer à Brightwell quand je partis. Une fille qui va avoir un enfant, sont-ce là toutes vos nouvelles? S'écria M. Weston. Je croyais que vous alliez nous entretenir d'affaires publiques, de quelque chose concernant l'État. Je crains bien que cela ne soit en effet trop commun, répondit le curé. Mais je pensais que toute l'histoire méritait d'être racontée. Quant aux affaires publiques, vous en savez plus que moi. Je ne m'occupe que de celles de ma paroisse. Comme vous dites, répondit M. Weston, je crois que je m'y connais un peu. Mais Tom, buvons, la bouteille est à côté de vous. Tom pria M. Weston de vouloir bien l'excuser, parce qu'il avait une affaire importante qui l'appelait, et, se levant de table, il s'échappa de ses mains, malgré les efforts qu'il faisait pour le retenir, et sortit précipitamment. M. Weston, piqué de son départ, jura de la bonne manière, puis, se tournant vers le curé, « Je l'ai deviné, s'écria-t-il, je l'ai deviné. Oui, oui, comme un et un font deux, Tom est le père du petit bâtard. »«
J'en serais très fâché, dit le curé. »«
Pourquoi fâché ? S'écria M. Weston. « Quel grand mal y a-t-il à cela ? Voudrais-tu, curé, me faire croire que tu n'as jamais eu de bâtard, toi ? Allons donc, tu aurais donc eu bien du bonheur, car je suis témoin que tu n'as pas négligé les occasions de te donner du bon temps. »
Vous aimez à rire, répondit le curé. Je ne blâme pas seulement le péché qu'il a commis, et dont il faut sans doute faire tous ses efforts pour se garantir, mais je crains que cette faute ne lui nuise auprès de M. Allworthy. Et je dois dire, avec vérité, que quoique ce jeune homme soit un peu étourdi, je ne l'ai jamais vu méchant et que je n'en ai jamais entendu dire aucun mal, si ce n'est celui que vous en dites en ce moment. Je désirerais seulement qu'il fût plus exact dans ses réponses à l'office. Mais au total, il me semble « ingenui vultus puer, ingenui que pudoris ». C'est un vers latin, ma jeune dame, que l'on peut rendre ainsi « un jeune homme aussi beau que bien fait et modeste ». Car la modestie était une vertu fort estimée chez les Grecs et chez les Romains. Je dois donc dire que ce jeune gentilhomme, car je crois que malgré sa naissance, je peux l'appeler ainsi, me paraît aussi honnête que modeste, et je serais fâché qu'il se fît aucun tort dans l'esprit de M. Allworthy. « Bon, dit M. Weston, se faire tort dans l'esprit d'Allworthy. Est-ce que Allworthy n'aime pas aussi les filles, lui? Tout le comté ne sait-il pas bien de qui Tom est le fils? Comptez cela à d'autres. Je me ressouviens d'Allworthy du temps que nous étions au collège. Je croyais, dit le curé, qu'il n'avait jamais été à l'université. Si fait bien, dit M. Weston. Et nous avons vu plus d'une fille ensemble. Ah, je vous le garantis, libertin, autant qu'aucun à 10 000 à la ronde. Non, non, Tom ne se brouillera pas avec lui, ni avec aucune autre personne, je vous en réponds. Demandez à Sophie, hein? Vous n'avez pas plus mauvaise opinion d'un jeune homme parce qu'il a un bâtard, n'est-il pas vrai, ma fille? Non, non, les femmes l'en aimeront mieux pour cela. C'était une question bien cruelle à faire à la pauvre Sophie. Elle avait remarqué que Tom avait changé de couleur en entendant l'histoire du curé, et cela, joint à son départ précipité, lui donnait une raison suffisante de croire que les soupçons de son père n'étaient pas sans fondement. Son cœur lui découvrit tout à coup le grand secret qu'il tenait caché, et qui, depuis longtemps, cherchait insensiblement à se montrer au grand jour, et elle s'aperçut qu'elle prenait un vif intérêt à cette affaire. Dans cette situation, la question imprudente et soudaine de son père produisit en elle des symptômes qui auraient pu alarmer un esprit pénétrant. Mais, pour rendre justice à M. Weston, ce n'était pas là son défaut. Elle se leva donc de sa chaise et lui dit qu'elle comprenait son avertissement de se retirer, ce qu'elle fit sans qu'il s'y opposât. Il remarqua seulement avec beaucoup de gravité qu'il valait mieux voir une fille trop modeste que trop hardie. Observation neuve, qui fut hautement applaudi par le curé. Il s'ensuivit aussitôt entre M. Weston et M. Supple une excellente discussion politique dans le genre de celle que l'on trouve dans les gazettes et autres pamphlets de cette nature, au milieu de laquelle ils firent une libation de 4 bouteilles de vin à la prospérité de leur pays. Ensuite, M. Weston s'étant endormi, le curé alluma sa pipe, monta à cheval et retourna chez lui. Quand M. Weston eut fait sa demi-heure de méridienne, il envoya chercher sa fille pour jouer du clavecin. Mais elle fit prier son père de l'excuser à cause d'un violent mal de tête, ce qui lui fut accordé à l'instant, car elle avait rarement occasion de réitérer ses demandes, son père ayant pour elle une affection si vive qu'en lui faisant plaisir, il s'en faisait encore davantage à lui-même. Elle était bien réellement, comme il l'appelait souvent, sa chère enfant, et elle le méritait d'autant mieux qu'elle le payait du plus tendre retour. Elle lui obéissait inviolablement en tout, et son amour pour lui lui rendait cette obéissance si facile et si délicieuse que quand une de ses compagnes se moquait d'elle à cause du grand mérite qu'elle avait l'air d'attacher à cette scrupuleuse obéissance, Sophie lui répondait « Vous vous trompez, ma chère, si vous croyez que je m'en estime davantage pour cela. Car outre que je ne fais que remplir mon devoir, j'y trouve encore un grand plaisir. » Je vous avoue que je n'en connais point d'égal à celui de contribuer au bonheur de mon père, et je m'estime plus heureuse d'en avoir le pouvoir que je ne me crois de mérite en en faisant usage. C'était cependant une satisfaction que la pauvre Sophie était incapable de goûter ce soir-là. Non seulement elle se fit excuser de jouer du clavecin, mais encore de paraître à souper, ce qui lui fut également accordé, non sans quelque peine, car son père ne lui permettait presque jamais de le quitter, excepté quand il buvait ou s'occupait de ses chevaux et de ses chiens. Il céda néanmoins au désir de sa fille, quoique le pauvre homme, pour éviter sa propre compagnie, fût obligé d'envoyer chercher un fermier voisin pour passer la soirée avec lui. Chapitre 11. Liberté rendue à Molly Seagrim, avec quelques observations pour lesquelles nous avons été forcés de pénétrer assez avant dans les profondeurs de la nature. Tom Jones, avait monté le matin à la chasse un des chevaux de M. Weston, en sorte que, n'ayant point de cheval à lui dans les écuries de ce gentilhomme, il fut obligé de s'en aller à pied, ce qu'il fit si lestement qu'il courut plus de 3 milles en moins d'une demi-heure. Comme il arrivait à la grille du château de M. Allworthy, il rencontra un garde champêtre avec sa suite, et au milieu d'eux, Molly, qu'il conduisait à cette maison où les gens du peuple peuvent recevoir une bonne leçon, c'est-à-dire apprendre le respect et la déférence qu'ils doivent à leurs supérieurs, puisqu'on leur y montre l'énorme différence que la fortune met entre ceux qui sont punis pour leurs fautes et ceux qui ne le sont pas. Je crains bien que ceux qui n'y reçoivent pas cette leçon n'en reçoivent pas une meilleure et n'ajoutent pas beaucoup dans ces sortes de maisons au peu qu'il leur reste de moralité. Un homme de loi pourra penser que M. Allworthy excéda un peu les bornes de son autorité dans cette circonstance. Et à dire vrai, comme il n'y avait pas eu d'information légale devant lui, peut-être sa conduite n'était-elle pas strictement régulière. Cependant, comme on ne peut douter que son intention ne fût très pure, il doit être excusé au tribunal de la conscience, puisqu'il y a un si grand nombre d'actes arbitraires commis journellement par des magistrats qui n'ont pas la même excuse que lui. Tom n'eut pas été plutôt informé par le garde champêtre du lieu où il conduisait Molly, et qu'il n'avait que trop bien deviné, qu'il la saisit dans ses bras, et l'embrassant tendrement devant tous ceux qui étaient présents, il jura qu'il tuerait le premier qui tenterait de la lui arracher. Il la conjura de sécher ses larmes et de se rassurer, lui promettant de l'accompagner partout où on la conduirait. Puis, se retournant vers le garde champêtre, qui était tout tremblant et chapeau bas, il le pria très doucement de retourner un moment avec lui chez son père, car c'est ainsi qu'il appelait M. Allworthy. Il osait, dit-il, être assuré que quand il aurait allégué ce qu'il avait à dire en faveur de cette jeune fille, elle serait sur le champ remise en liberté. Le garde champêtre, qui, je n'en doute pas, aurait de bon cœur abandonné sa prisonnière si Tom l'avait exigé, consentit aussitôt à la demande. Ils retournèrent donc tous au château. Tom les pria d'attendre dans une salle jusqu'à son retour, et se mit à chercher M. Allworthy. Aussitôt qu'il l'eut trouvé, il se jeta à ses pieds, et lui ayant demandé de l'entendre avec patience, il s'avoua le père de l'enfant dont Molly était enceinte. Il le supplia de prendre pitié de la pauvre fille, et de considérer si quelque faute avait été commise, lui seul en était coupable. « Si quelque faute a été commise, répondit M. Allworthy avec chaleur, et quoi ? Êtes-vous donc un libertin assez corrompu, assez abandonné, pour douter que ce soit un crime de violer toutes les lois divines et humaines, en séduisant et perdant une pauvre fille? Je conviens que vous en êtes principalement coupable, et ce crime est si énorme que vous devez vous attendre à en être sévèrement puni. Quel que doive être mon sort, dit Tom, exaucez mes prières en faveur de cette pauvre fille. J'avoue que je l'ai séduite, mais il dépend de vous de la perdre ou de la sauver. Pour l'amour de Dieu, monsieur, révoquez votre arrêt et ne l'envoyez pas dans un lieu où elle trouvera sa perte inévitable. » M. Allworthy lui ordonna d'appeler un domestique. Tom répondit qu'il n'était pas nécessaire, qu'il avait heureusement rencontré Molly et le garde champêtre à la grille du château, et que, se fiant à sa bonté, il les avait ramenés dans une salle où ils attendaient sa dernière résolution. Qu'il le suppliait à genoux de se rendre favorable à la pauvre fille en lui permettant de retourner chez ses parents et ne l'exposant pas à plus de honte et de mépris qu'elle n'en méritait. « Je sais, dit-il, qu'elle n'en éprouvera déjà que trop. Je sais que j'en suis la malheureuse cause, je tâcherai de réparer ma faute s'il est possible, et j'espère mériter mon pardon si vous avez par la suite la bonté de me l'accorder. » M. Allworthy hésita un moment et dit enfin, « Eh bien, je révoquerai l'ordre que j'ai donné. Envoyez-moi le garde champêtre. » Il vint et fut congédié sur le champ, ainsi que Molly. On peut bien croire qu'en cette occasion, M. Allworthy ne manqua pas de faire à Tom un sermon très sévère, comme celui qu'il fit à Jenny Jones dans le premier livre, et dont la plus grande partie peut aussi bien s'appliquer aux hommes qu'aux femmes. Il est donc inutile de le transcrire ici. Ses reproches produisirent un si grand effet sur le jeune homme, qui n'était pas un pécheur endurci, qu'il se retira dans sa chambre, où il passa solitairement la soirée dans une extrême tristesse. M. Allworthy était extrêmement irrité contre Tom Jones. Car nonobstant les assertions de M. Weston, il est certain que ce digne homme n'avait jamais été adonné au libertinage et le condamnait grandement dans les autres. On pouvait d'autant plus soupçonner qu'il n'y avait pas la moindre vérité dans ce que M. Weston avait affirmé si légèrement, qu'il avait placé les scènes indécentes dans lesquelles il lui faisait jouer un rôle à l'université, où il est constant que M. Allworthy n'avait jamais été. Il faut convenir que M. Weston se livrait un peu trop facilement à ce genre de plaisanterie que l'on appelle communément « rodomontade », mais qui, comme une grande partie de ce qui passe fréquemment dans le monde pour de l'esprit et de la gaieté, devrait, dans la plus exacte pureté de langage, recevoir une autre dénomination que je supprime ici pour me conformer aux lois du savoir-vivre et de la politesse. Mais quelque horreur que M. Allworthy eût pour ce fils ou pour tout autre, il ne s'aveugla pas au point de ne pouvoir plus discerner aucune vertu dans celui qui s'en était rendu coupable. Il la voyait aussi distinctement que s'il n'y avait pas eu un mélange de vices dans son caractère. C'est pourquoi, tandis qu'elle était en colère contre Tom, à cause de son libertinage, il n'en était pas moins charmé du sentiment d'honneur et de l'honnêteté qu'il avait fait s'accuser lui-même. Il commença à prendre de ce jeune homme la même opinion que le lecteur, j'espère, en a déjà conçue, et en balançant ses fautes avec ses bonnes qualités, les dernières lui parurent l'emporter de beaucoup. Ce fut donc en vain que Thwackum, à qui M. Blifil s'était empressé d'aller raconter toute l'histoire, rappelant son ancienne rancune contre le pauvre Tom, l'accabla des invectives les plus amères. M. Allworthy les écouta avec patience et répondit froidement que les jeunes gens du tempérament de Tom étaient trop généralement enclins au libertinage, mais qu'il le croyait sincèrement touché de ce qu'il lui avait dit en cette occasion et qu'il y avait tout lieu d'espérer qu'il ne commettrait plus la même faute. En sorte que le temps du fouet étant passé, le pédagogue ne put évaporer sa bile qu'en paroles, ordinaire et triste ressource d'une impuissante vengeance. Mais Squea, dont le caractère était moins violent, n'en était que plus perfide, et comme il haïssait Tom plus encore, s'il est possible que Thwackum lui-même ne le haïssait, il médita comment il pourrait aussi lui nuire davantage dans l'esprit de M. Allworthy. Le lecteur doit se souvenir des divers petits incidents de la perdrix, du cheval et de la Bible, dont nous avons rendu compte dans le second livre de cette histoire, et qui avaient plutôt servi à augmenter qu'à diminuer l'affection de M. Allworthy pour Tom. Ce qui serait, je pense, également arrivé avec toute autre personne qui aurait eu quelque idée de l'amitié, de la générosité et de la grandeur d'âme, c'est-à-dire qui aurait eu un peu de bonté. Square lui-même n'ignorait pas l'impression que ces divers exemples de bonté avaient produite sur l'excellent cœur de M. Allworthy, car le philosophe savait très bien en quoi consistait la vertu, quoiqu'il ne s'empressât peut-être pas toujours de la mettre en pratique. Quant à Thwackum, je ne sais pour quelle raison cette idée n'entra pas dans sa tête. Il voyait Tom sous un point de vue défavorable, et s'imagina que M. Allworthy le voyait de même, mais que l'orgueil et l'opiniâtreté l'empêchaient seuls d'abandonner ce jeune homme qu'il avait toujours aimé jusqu'à ce moment, puisqu'en l'abandonnant, c'eût été reconnaître tacitement que la première opinion qu'il avait conçue de lui était fausse. Square saisit donc cette occasion pour blesser Tom dans la partie la plus sensible, en donnant une mauvaise interprétation à tout ce qui s'était passé précédemment. « Je suis fâché, dit-il à M. Allworthy, d'avoir été trompé aussi bien que vous. Je ne pouvais, je vous l'avoue, m'empêcher d'admirer ce que j'attribuais au motif de l'amitié, quoiqu'elle fût portée à l'excès, et que tout excès soit un vice. Mais je l'excusais en faveur de sa jeunesse. Je soupçonnais encore moins que le sacrifice de la vérité, que nous imaginions tous deux avoir été fait à l'amitié, avait été prostitué à la débauche la plus criminelle. Vous voyez clairement aujourd'hui d'où venait toute l'apparente générosité de ce jeune homme pour la famille du garde-chasse. Il soutenait le père pour corrompre la fille, et l'empêchait de mourir de faim pour avoir le loisir de déshonorer et de perdre un de ses enfants. Est-ce là de l'amitié? Est-ce là de la générosité? Oui, dans le sens de Sir Richard Steele, qui dit « Mérite-t-il donc d'être appelé généreux, les gourmands qui se ruinent pour satisfaire leur sensualité? En un mot, je suis décidé, d'après cet exemple, à ne plus me laisser aller à la faiblesse de la nature humaine, et de ne plus considérer comme vertu ce qui ne cadrera pas exactement avec la règle invariable de la justice. La bonté de M. Allworthy l'avait empêché de faire lui-même ses réflexions. Cependant, elles étaient trop plausibles pour qu'il se hâtât de les rejeter absolument lorsqu'elles étaient suggérées par un autre. Ce que Square venait de lui dire avait fait une profonde impression sur son esprit. Et l'inquiétude qu'il en ressentit ne fut que trop visible, quoique l'excellent homme ne voulut pas en convenir. Après avoir fait une courte réponse, il rompit la conversation. Il fut heureux pour le pauvre Tom que ses suggestions n'eussent pas précédé son pardon, car elles gravèrent dans l'esprit de M. Allworthy les premières préventions défavorables qu'il avait reçues contre lui.